Bien alors, c'est moi qui vous remercie de votre accueil. Ici, je ne vais pas être très long parce que effectivement, la grippe, vous avez tous une vague idée de ce qui a pu se passer et j'aimerais mieux qu'on ouvre la discussion dans la mesure où ça n'interrompt pas trop votre repas. Je vais donc dire quelques mots sur qu'est-ce qu'un anthropologue peut dire de la grippe et plus particulièrement de cet épisode assez bizarre de la grippe pandémique de 2009. Alors, comme l'a rappelé Anne, j'ai en fait une double formation en anthropologie, américaine et française, disons. Si on définit l'anthropologie comme cette science qui s'est formée au 19e siècle, à la fois en France, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis dans le cadre des empires coloniaux hein, ou de la connaissance des sociétés qui disparaissaient dans ces empires. Bon, bien sûr, tout ça a beaucoup changé, mais j'ai eu la chance dans ma formation de connaître deux traditions. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais aussi historien d'anthropologie, donc je peux parler aussi, si vous voulez, dans la discussion de ça, mais ça me semble important. Chaque pays a une forme, une façon de pratiquer l'anthropologie qui dépend de son propre rapport avec les sociétés qu'il a colonisées, le rapport entre l'urbain et le rural, etc. Bon, donc moi, j'ai effectivement connu l'anthropologie américaine et l'anthropologie française. L'anthropologie américaine parce que j'ai été formé donc par Paul Rabineau à l'université de Berkeley en Californie. Paul Rabineau a lui-même une double formation, où deux maîtres qui sont là, Clifford Geertz, donc qui reprend l'héritage de l'anthropologie culturelle de Boas après la Seconde Guerre mondiale, et Michel Foucault, qui est un philosophe français mais qui en fait travaille avec des problèmes de presque de philosophie allemande, de qu'est-ce que c'est que comparer des formes de pensée. Et ce que j'ai retenu de Paul Rabineau, qui va concerner notre propos, c'est que un anthropologue ne décrit pas des cultures, plus personne n'étudie des cultures aujourd'hui, mais un anthropologue va essayer de diagnostiquer un événement. Qu'est-ce que c'est que diagnostiquer un événement? C'est presque au sens où un médecin diagnostique quelque chose qui va pas, et essaye de découvrir plusieurs forces qui sont en conflit dans un corps qui souffre. Diagnostiquer un événement au niveau d'une société ou même du monde, puisque j'ai essayé de diagnostiquer un événement dans le monde, c'est séparer, distinguer ce qui est nouveau et ce qui est ancien. Différentes formes de rationalité, si on veut, qui correspondent à des histoires différentes. Une autre idée que j'ai reçue de Paul Rabineau, c'est que un anthropologue n'est pas seulement quelqu'un qui regarde l'art, la technique, la religion, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse au savoir sur le vivant. Et en particulier, nos sociétés, et même toutes les sociétés, ont été profondément transformées depuis une trentaine d'années par les savoirs sur le vivant, par ce qu'on appelle les biotechnologies, notamment par la génétique, la possibilité de ramener les formes très complexes du vivant à des cartes génétiques. Et donc la question que pose Rabineau, c'est de savoir comment les savoirs sur le vivant reconfigurent ce qu'on peut appeler, si on reprend Foucault, les formes de subjectivité, c'est-à-dire notre rapport au corps, à notre histoire, aux autres. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est l'anthropologie sociale française. Alors, je suis effectivement membre du laboratoire d'anthropologie sociale qui a été créé par Claude Lévi-Strauss il y a 50 ans, qui est maintenant dirigé par Philippe Descola. Je me rattache aussi à l'héritage de Lucien Lévi-Brull, sur lequel j'ai fait ma thèse. Et ce que je retiens de cet héritage, entre autres, c'est que les relations entre humains et non-humains, c'est-à-dire dans non-humains, on met les animaux, les plantes, il faudrait mettre les microbes, les relations entre humains et non-humains reflètent et transforment les relations entre humains. C'est-à-dire que si on veut comprendre une société, il faut analyser aussi ce qu'elle dit sur la nature, c'est ce que Descola appelle l'anthropologie de la nature. Mais la nature, ça implique effectivement tout un ensemble d'êtres. Alors si on est en Amazonie, comme Descola, on va étudier les pécaris, les araras dans les arbres. les oiseaux, et puis les esprits des morts, etc., ce qu'on invoque dans les rituels de transe. Et puis si on est dans des sociétés modernes, on va étudier les animaux, les plantes et les microbes. Parce que les microbes, enfin c'est une thèse que j'ai, c'est que les microbes jouent un peu dans notre société la même fonction que les esprits invisibles dans les sociétés prémodernes. Bon voilà, ça c'est pour les deux sources. Alors maintenant, comment est-ce que je combine ça? Bon, et si on veut dans la deuxième source, il y a tout cet aspect universaux de la pensée humaine, mais ça c'est pas très important pour moi. Disons que ce que je retiens de Descola notamment, c'est que ces relations entre humains et non-humains, elles sont pas infinies, elles sont pas en nombre infini, c'est ce que dit Lévi-Strauss. Elles sont en nombre limité, et on peut donc comparer les sociétés à partir de la façon dont elles combinent un petit nombre de relations entre humains et non-humains. On n'est donc pas dans le relativisme absolu. Alors maintenant, comment je fais fonctionner ces deux traditions? Ben justement, j'ai essayé de partir d'un événement, et cet événement, celui auquel vous avez assisté, parce qu'on en entend tous, on est tous abreuvés d'informations par les médias, et puis effectivement, de temps en temps, on reçoit des petites lettres du gouvernement. Cet événement, c'est que en 2009, donc, il y a eu un virus de grippe qui a émergé au Mexique dans un élevage de porcs qui s'est transmis au reste du monde en quelques mois et qui a conduit à une mobilisation globale dirigée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on est passé d'une maladie qu'on connaît tous parce qu'on a tous eu des petits épisodes de grippe à quelque chose d'énorme où tous les gouvernements, tous les médias du monde entier, on voyait des images des aéroports au Mexique, au Japon, comme ça avec les gens avec des masques. Bon, comment on fait pour comprendre ça, pour comprendre le court-circuit entre ma brave petite grippe et puis les gens dans les aéroports, les cochons mexicains, Madame Bachelot qui parle avec les gens de l'OMS, etc. Comment on décrit tout ça? Alors effectivement, la façon dont on a reçu ça, et souvent le souvenir qu'on en garde, c'est qu'on a reçu la petite lettre de l'État qui nous dit il faut stopper les virus de la grippe, allez vous faire vacciner. Et je vous rappelle quand même que cette campagne de vaccination, qui n'était pas obligatoire, et ça c'est effectivement parce que la vaccination est de moins en moins obligatoire, c'était une des grandes prérogatives de l'État dans les années 50, ça ne l'est plus. Donc une vaccination recommandée par l'État, et qui conduit l'État français à acheter 90 millions de doses de vaccins dans un contexte de crise budgétaire. Acheter des vaccins, je vous rappelle, produits par des laboratoires français, suisses et belges, pas américains, très peu. Pourquoi 90 millions de vaccins? Parce que à l'époque où ils ont fait les commandes, on pensait qu'il fallait deux doses par personne. On s'est rendu compte finalement que une dose suffisait, et donc finalement il y a 5 millions de personnes qui se sont fait vacciner. Et les 85 millions de doses qui restent, on en a donné quelques-unes à l'Algérie, à l'Égypte, au Cambodge, et puis la plupart ont été jetées. Il a fallu même créer un établissement public pour recycler, pour détruire ces doses de vaccins de façon sûre. Alors, quand on a un événement aussi assez pathétique, aussi grotesque, une question on peut se poser plusieurs questions. Question que poserait un sociologue, c'est quelles sont les contraintes politiques qui ont poussé le ministère de la Santé à se lancer dans cette vaste campagne. Et bon, il faudrait analyser effectivement les rapports entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, l'OMS, des problèmes de rapport entre des administrations. Moi, c'est pas la question qui m'intéressait. La question qui m'intéressait, c'était plutôt quelle rationalité a conduit à cette décision apparemment irrationnelle. On peut supposer que les gens ne sont pas totalement irrationnels, et notamment quand on est au ministère de la Santé, on a beau agir sous le coup de l'émotion pour rassurer les gens, etc., on a des raisons d'agir comme on le fait, et donc j'ai essayé de comprendre ces raisons. Et il se trouvait que j'avais fait, en fait, depuis 4 ans, quand cet événement a eu lieu, une enquête sur sur les risques alimentaires liés à la crise de la vache folle, et puis ensuite sur la grippe aviaire qui m'a conduit en Chine. Donc j'avais un petit peu de recul sur cette histoire, ce qui fait que j'ai pu effectivement écrire ce livre là un peu dans le feu de l'action. C'est pour ça que ce livre n'est pas une synthèse ou c'est pas le fin mot de l'histoire, hein, c'est juste une réaction à chaud à partir d'une expérience que j'avais donc depuis 4 ans sur ces questions-là. Et bon, c'est un livre qui se distingue un peu de livres que vont écrire les biologistes ou les médecins qui eux ont leur propre expérience de ce que c'est qu'avoir un patient qui vient vous demander s'il faut se faire vacciner, ou si on est un biologiste, par exemple, qui consulte régulièrement, enfin, qui est consulté par les gouvernants, c'est ce qu'on appelle un expert, on va écrire un autre type de livre. Bon, moi, j'écris pas des livres pour dire est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas, est-ce que c'est grave, docteur, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Pour vous dire un peu ce qui se passe, je vais avant de revenir un peu en arrière, je vais reprendre deux événements récents, puisque en fait, souvent quand je parle de ce livre, les gens me disent c'est bon, c'est fini, on n'en reparlera plus, parce qu'effectivement, on vous a tous un peu monté la tête dans les médias avec cette histoire, et en général, les gens en ont marre. Or, il s'est passé deux événements récemment, là, au mois de décembre, donc 2011. D'une part, il y a eu ce qu'on appelait un super virus qui a été créé dans un laboratoire à Rotterdam. Il se trouve que les Hollandais en Europe sont les meilleurs sur ces questions-là, pour des raisons qui sont liées, je pense, au fait que c'est le lieu où il y a beaucoup d'échanges, de circulation. En Chine, c'est les gens de Hong Kong, aux États-Unis, c'est Atlanta. Mais bon, donc les Hollandais, les médias disent que les Hollandais ont fabriqué un super virus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ils ont pris le virus H5N1, donc qui, depuis un certain nombre d'années, je vais y revenir, était soupçonné de causer la plus grande pandémie du monde et de tuer toute la planète. Je rappelle que la pandémie de H1N1 de 2009, on attendait le H5N1 super méchant, on a eu un virus super gentil. Ou pour le dire plus précisément, on attendait un virus très létal qui tue beaucoup de monde, mais très peu contagieux, et on a un virus très contagieux, mais qui tue très peu de monde. Hein, on a eu 18 000 morts du H1N1 en 2009. D'habitude, la grippe saisonnière, c'est environ 500 000 morts. Et le H5N1, s'il était vraiment passé d'homme à homme, on aurait eu 60 millions de morts, entre 60 et 100 millions, c'est ce qu'on nous annonçait. Bon, donc ce qui s'est passé à Rotterdam, là, au mois de décembre, c'est que donc des biologistes ont pris ce virus H5N1, puis ils l'ont passé dans un furet. C'est des furets, parce que les furets sont les seuls animaux de laboratoire qui ont les mêmes symptômes de la grippe que nous, ils éternuent. Il y a plein d'autres animaux qui ont la grippe, même les cochons notamment, mais ils n'ont pas les mêmes symptômes. Et on s'est rendu compte qu'au bout de 10 générations, les furets se passent d'une génération à une autre le H5N1. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont créé comme ça un virus qui peut passer d'homme à homme. On ne sait pas, ils n'ont pas inoculé ce virus aux humains. Mais comme le furet est à peu près analogue à nous en termes de comportement respiratoire, on peut supposer qu'ils ont un H5N1 qui se transmet d'homme à homme. Or, ce que disent les médias, ça veut dire c'est incroyable, on utilise l'argent public pour fabriquer des virus super dangereux. Donc ça c'est la première source de réflexion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de labo qui fabrique des virus super dangereux, et est-ce que ça vaut vraiment la peine d'étudier ça? La deuxième histoire, le deuxième événement récent, c'est que il y a des Chinois qui sont morts au mois de décembre du virus H5N1 à Shenzhen. Et ils sont morts d'un virus H5N1 qui est pas le même que celui qu'on a eu en France. Et donc ce virus mute. Et donc on continue à penser que ce virus H5N1 est très dangereux. Donc voilà, on a eu un virus H1N1 pas très dangereux, mais le virus H5N1 continue à être très dangereux. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ce virus H5N1 qu'on étudie dans les laboratoires, c'est le même que celui qui se développe sur les oiseaux dans le sud de la Chine. Et ça aboutit à une idée qui, pour un anthropologue, est très intéressante, qui est que finalement, la nature produit des virus plus dangereux que les biologistes, et dans le sud de la Chine pourraient apparaître des virus plus dangereux que ce que fabriquerait un terroriste dans une cave du Pakistan, puisque une des grandes obsessions qui explique cette mobilisation sur la grippe, c'est que depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis, qui sont quand même leaders de la planète pour pas mal de choses, nous expliquent que Al-Qaïda peut fabriquer des virus dans des caves, ce qui les a amenés d'ailleurs à intervenir en Irak, en ayant montré qu'ils pouvaient faire de la guerre bactériologique, et ils se sont trompés, on le sait. Mais voilà, la question qui intéresse donc l'anthropologue, c'est de savoir comment est-ce que la nature peut être considérée comme bioterroriste. Voilà la question qui m'intéresse. Alors, En réponse à cette question, moi j'ai suivi une piste qui a été ouverte par Paul Rabineau, qui est d'étudier ce qu'on appelle des dispositifs de biosécurité. Nous sommes dans l'ère de la biosécurité, c'est peut-être pas un mot que vous avez rencontré, mais la biosécurité, en gros, c'est des mesures qu'on applique dans tous les lieux où on peut être en contact avec des virus super dangereux. Donc c'est dans les laboratoires, bien sûr, puisqu'on manipule les virus, mais ça peut être aux frontières, puisque vous pouvez amener des animaux qui ont ces virus dangereux, hein, puisqu'on estime que l'augmentation du nombre d'animaux qui circulent sur la planète, notamment pour des animaux de compagnie, hein, des singes ou des animaux de laboratoire, des singes, des serpents qui arrivent d'Afrique, augmente le nombre de microbes, et que ces microbes, quand ils changent d'environnement, deviennent plus dangereux. Un microbe qui ne tue pas en Afrique va tuer quand il arrive ici. Donc on contrôle les frontières, bien sûr, mais on contrôle aussi les fermes, puisque on estime qu'une des raisons pour lesquelles ces nouveaux virus dangereux se multiplient, c'est qu'on a augmenté le nombre d'animaux élevés dans les fermes, qui présentent une forte homogénéité génétique. Alors, bon, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais disons que le H5N1 a effectivement émergé dans le sud de la Chine pour des raisons que... C'est un peu le cocktail explosif, la Chine. Vous avez à la fois des oiseaux, des cochons, des hommes en forte densité. Ils utilisent même des canards pour détruire les insectes nuisibles dans les cultures de riz. Le canard est un porteur sain du virus de la grippe. Donc bon, on estime que c'est la raison pour laquelle le virus H5N1 a émergé dans le sud de la Chine. Mais la raison pour laquelle il se diffuse dans le reste du monde, c'est que il y a une forte homogénéité génétique dans les élevages de poulets en batterie. Il y a également de la contrebande de volailles sur les voies de la Chine à l'Europe et à l'Asie. Et donc effectivement, les fermes et notamment les élevages industriels sont des lieux où peuvent apparaître des virus très dangereux. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut décrire à travers les mêmes technologies de pouvoir, disons, les mêmes formes de contrôle, des lieux aussi différents que des fermes, des frontières et des laboratoires. Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir un peu en arrière, faire un petit recul dans l'histoire. 1997. Toute cette histoire commence vraiment en 1997. Avant, il y avait très peu de gens qui se passionnaient pour la Chine. 1997, vous avez des scientifiques américains qui vont recréer en laboratoire le virus H1N1 de 1918. Ce virus de 1918, il a causé ce qu'on appelle la grippe espagnole, qui a tué... certaines estimations font jusqu'à 100 millions de personnes. En tout cas, c'était la guerre, donc on ne pouvait pas compter. Mais ça a fait plus de morts que la guerre. La guerre a tué environ 20 millions de personnes. Et il y a eu entre 20 et 50, 60, peut-être 100 millions de personnes qui sont mortes de la grippe, dans le monde entier. Hein. En France, on a finalement été assez épargné, mais bon, en Inde, aux États-Unis, ça a été radical. Les gens tombaient du matin au soir, ils mouraient de la grippe. Et donc, vous avez des biologistes qui sont allés chercher des cadavres congelés dans le Grand Nord de soldats de la guerre de 1918, et ils ont prélevé l'ADN du virus. C'est à l'origine de Jurassic Park, hein, si vous aimez le cinéma. Ils ont prélevé du virus, de l'ADN de ce virus, et ils ont recréé un virus à partir d'ADN congelé. Alors, il y a des gens qui ont dit c'est génial, la science avance, et puis d'autres qui ont dit c'est très dangereux, vous êtes fous, et si des gens mal intentionnés utilisaient ce virus. Mais bon, ce qui est important, c'est que pour la première fois, on avait une hypothèse sur la carte génétique d'un virus super dangereux, et la première chose qu'ont vu les biologistes en 1997, c'est que le virus H1N1 de 1918 avait très peu de différences génétiques avec les virus de grippe saisonnière. Donc la raison pour laquelle un virus devient dangereux, ça n'est pas ne se situe pas au niveau de son génome. La même année émergeait à Hong Kong le virus H5N1 sur des oiseaux. Ce virus a tué 8 personnes sur les 18 qu'il avait infectées, ce qui pour un virus est assez fort. Le virus le plus dangereux, c'est le virus Ebola en Afrique, qui tue pour certaines souches 90% des gens qui l'infectent. Mais c'est un virus qui tue tellement vite qu'il ne peut pas se répandre, et quand il passe des singes aux humains. Le virus H5N1 a quand même tué pas mal de gens, et puis des gens qui étaient au contact avec des oiseaux, et notamment des volailles domestiques, ce qui à Hong Kong sont assez nombreuses. Hein, c'est une des bases de l'alimentation dans le sud de la Chine. Pourquoi est-ce que ça suffit à lancer une alerte globale? Parce que Hong Kong, en 1997, c'était une colonie britannique qui rentrait sous la souveraineté chinoise. Vous vous rappelez peut-être cette grande cérémonie où le gouverneur partait dépité dans la sous la, il y avait des tornades de pluie, et puis Jiang Zemin, qui était le président de la Chine populaire, arrivait et reprenait le, et l'armée chinoise entrait sur le territoire de Hong Kong. Ça a été un événement assez important, notamment parce que pas mal de gens, notamment dans le monde anglo-saxon, se sont dit c'est la fin du libéralisme, la Chine a gagné, et comment on va faire pour maintenir une économie avec une souveraineté chinoise. Bon, donc je vais y revenir, mais la peur de la grippe, c'est aussi la peur de la Chine. En tout cas, le fait que la grippe a émergé dans un territoire anglais qui revient sous souveraineté chinoise est assez important. Il se trouve aussi que depuis les années 70, vous aviez un certain nombre de biologistes anglais qui à Hong Kong disaient le prochain virus pandémique va émerger dans le sud de la Chine. Et il se trouve que leur prédiction a été réalisée juste au moment où la catastrophe allait arriver du retour de Hong Kong sous souveraineté chinoise. Donc c'est très lié à des rapports entre la colonie britannique et la Chine. Mais bon, le fait biologique quand même, c'est que c'était le premier virus de grippe qui est passé directement des oiseaux aux humains. C'est-à-dire qu'on estime, enfin, on a montré que les virus de grippe pour se transmettre aux humains doivent passer par les cochons. Pourquoi ? Parce que les cochons ont les mêmes trachées respiratoires que les humains et que les oiseaux. Enfin, disons, ils ont des récepteurs dans leurs trachées respiratoires qui sont communes, qui sont pour certains communs avec les oiseaux et pour d'autres communs avec les cochons, avec les humains. Donc, c'est le cochon est le véhicule intermédiaire. Ce qui explique d'ailleurs que la grippe du cochon, celle de 2009, était moins dangereuse que la grippe des oiseaux. Donc là, on a un virus qui est passé directement des oiseaux aux humains, et donc pour franchir ce saut, ce seuil, cette barrière d'espèce, il a fallu qu'il ait ce qu'on appelle une cassure génétique, et puis surtout ça a entraîné des comportements immunitaires chez les patients qui les ont eus complètement catastrophiques. Là aussi il faut préciser que quand un nouveau virus apparaît, il tue les plus jeunes, parce que le système immunitaire surréagit. Au contraire, quand il devient saisonnier, quand il s'adapte à l'organisme humain, il tue les plus âgés. Puisque les plus âgés, justement, leur système immunitaire va s'effondrer face à un virus de grippe, mais il ne va pas surréagir. Alors, donc, 1997, vous avez ces deux événements, recréation du virus H1N1 de 1918 aux États-Unis, apparition du virus H5N1 à Hong Kong, et donc c'est le début d'une vaste mobilisation qui entraîne le Center for Disease Control aux États-Unis, l'Organisation Mondiale de la Santé à Genève. Alors là aussi, il faudrait rentrer un peu dans les détails. L'Organisation Mondiale de la Santé était une institution un peu en perte de vitesse dans les années 90 à cause de l'échec des campagnes sur le sida. En 2003, quand le virus du SRAS, je ne sais pas si vous vous souvenez du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, est apparu à Hong Kong, qui se transmettait par des petits rongeurs. On s'est dit, c'est comme le H5N1, c'est le même scénario, ça va nous péter à la tête. Et bon, il se trouvait qu'en même temps, les États-Unis avaient envahi l'Irak, donc l'OMS s'est dit, il faut tout miser sur le SRAS. Et le SRAS a été le début d'une gigantesque recomposition de la santé publique au niveau mondial, en se disant, il faut détecter tous les virus qui apparaissent sur les animaux, Ebola, SRAS, H5N1. Et Margaret Chan, qui est actuellement directrice de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a été nommée en 2006, est la personne qui s'est occupée à Hong Kong du H5N1 en 97 et du SRAS en 2003. Bon, cette vaste mobilisation, on n'en avait pas entendu parler en France avant 2005, puisque en 2005, on a eu les premiers cas de H5N1 en Europe. D'abord en Roumanie et en Turquie, puis on a eu un cas dans la Dombe, avéré, avec toutes les mesures, le Premier ministre qui arrive, et puis finalement, c'est passé assez vite, mais 2005, c'est le moment où vous commencez à entendre, il y a un pic d'informations sur H5N1 dans les médias, et puis ensuite ça retombe jusqu'au H1N1 de 2009. Alors, la question que je me suis posée, c'est, une fois que reconstitue cette séquence historique, c'est qu'est-ce qu'un anthropologue peut peut dire sur une telle mobilisation globale? Comment on peut étudier ça? Comment on peut faire ça sérieusement? Sachant que cette mobilisation implique des acteurs extrêmement hétérogènes, avec chacun leur histoire, leurs intérêts, etc. Sans tomber dans la thèse facile de tout ça, c'est un complot des industries pharmaceutiques. On pourra revenir dans la discussion sur cette question. Alors, une possibilité serait de suivre les réseaux d'experts de la grippe, qui est une petite communauté hein, qui doit former au total 500 personnes dans le monde et qui se retrouve dans des congrès, dans des organisations internationales, qui ont souvent un passage par le CDC aux États-Unis. Bon. Alors, c'est pas tout à fait la méthode que j'ai choisie, même si effectivement l'enquête que j'ai faite m'a amené à entrer en sympathie, en quelque sorte, de penser avec ces gens-là et à en faire mes interlocuteurs privilégiés. Mais la méthode que j'ai suivie, c'est plutôt de prendre des terrains où ces experts sont en contact avec les gens ordinaires. C'est quand même ce qu'intéresse un anthropologue, les gens ordinaires. Pas seulement les gens qui pensent, et pas seulement avec les gens ordinaires, mais avec les animaux. Puisque vous avez compris que ce qui m'intéresse dans cette histoire de grippe, c'est pas est-ce que ça va nous tuer, c'est qu'est-ce que ça nous enseigne des relations aux animaux. Donc j'ai choisi deux lieux d'enquête. L'un qui s'imposait, puisque j'y habitais, c'était Paris. Alors j'ai étudié des comités d'experts à l'AFSA, qui s'appelle maintenant l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. À l'assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP, assistance publique hôpitaux de Paris, c'est-à-dire une coordination des activités hospitalières dans la région parisienne. Et puis j'ai travaillé avec des médias, notamment le journal Le Monde, avec des syndicats d'éleveurs, alors pas à Paris, parce que justement c'est assez difficile d'arriver à joindre des éleveurs quand on est à Paris. Il faut traverser des kilomètres de banlieue. La Brie, la Beauce, tout ça, il n'y a pas d'éleveurs. J'ai travaillé en fait avec des éleveurs pas loin d'ici, à Millau, qui m'avaient invité pour leur parler justement de toutes ces histoires. Et quand je leur ai raconté mes histoires de H1N1, H5N1, ils m'ont dit qu'ils avaient un problème. Eux, c'était la vaccination obligatoire sur la fièvre catarrhale-ovine, qui est une maladie qui touche les brebis et aussi les bovins. Et donc j'ai travaillé avec des éleveurs du Larzac. Donc une tradition de mobilisation pour savoir comment eux ils percevaient toutes ces histoires de vaches folles, grippe aviaire, etc. L'autre terrain que j'ai choisi, qui est plus exotique, même si le Larzac c'était un peu exotique pour moi, c'est Hong Kong, où j'ai donc passé disons 2 ans, 2007-2009, avec des séjours plus ou moins longs. Alors mon point d'entrée privilégié, c'était le Centre Pasteur, qui est donc créé par les Français. La tradition de l'Institut Pasteur de créer des filiales comme ça un peu partout dans le monde pour justement pour avoir des informations sur les maladies qu'on appelle tropicales. Centre Pasteur qui est donc attaché à l'Université de Hong Kong et qui est vraiment spécialisé. C'est un des centres de... Enfin, l'Université de Hong Kong est un des centres de recherche de pointe sur ces maladies infectieuses émergentes et le Centre Pasteur y contribue. J'ai également travaillé avec une administration qui centralise les activités des hôpitaux, Hospital Authority, qui a été organisée après la crise du SRAS, qui joue un peu à Hong Kong un rôle équivalent à ce qu'a été la crise de la vache folle chez nous, c'est-à-dire une sorte de gigantesque traumatisme qui a obligé les administrations de la santé à se réorganiser et à adopter des standards de transparence, d'expertise, etc., d'indépendance de l'expertise. J'ai également travaillé dans des fermes. Après 97, en fait, le nombre de fermes de volailles à Hong Kong a été considérablement réduit. Il est passé de 300 à 30. Mais c'est des fermes assez importantes de 10 000 volailles, puisque vous avez encore une forte partie de la clientèle de Hong Kong qui ne veut pas acheter des poulets chinois parce qu'ils pensent que c'est mauvais, c'est sale, et qui préfère acheter du poulet hongkongais qu'ils consomment vivant, ce qui est effectivement la source du problème, c'est que les consommateurs sont en contact avec des poulets vivants et donc pourraient attraper le... Donc j'ai travaillé avec des fermiers et j'ai pu même travailler dans une ferme qui avait eu du virus H5N1 et qui a été mise en quarantaine pendant un mois. Bon, je raconte ça dans le livre. J'ai également fait des entretiens dans les marchés aux volailles pour voir comment les consommateurs géraient ce risque de contact avec une volaille vivante, puis comment aussi ils géraient le fait qu'il fallait choisir une volaille vivante et puis la récupérer morte un quart d'heure après, avec donc quelqu'un qui est en charge de l'abattage et de la découpe du poulet, donc des choses un peu exotiques pour nous. Et puis j'ai travaillé avec les médias, Hong Kong étant considéré comme un des lieux, tradition anglaise, de meilleure information, ce qui fait que comme tous les gens en Chine et même dans le sud-est asiatique se tournent vers le journal de Hong Kong, le South China Morning Post, qui est publié en anglais, pour savoir ce qui se passe un peu dans le continent asiatique. Et donc le South China Morning Post, depuis la crise du SRAS en 2003, est extrêmement actif sur la question des grippes. Vous n'avez pas un jour à Hong Kong sans qu'il y ait un article sur la grippe, que ce soit H5N1, H1N1. Et j'imagine qu'en ce moment, avec ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est carrément en première page. Donc voilà, l'idée était de comparer des acteurs en charge de la grippe dans deux lieux où ces acteurs étaient fortement connectés. Alors l'avantage de Hong Kong par rapport à Paris, c'est que c'est un terrain beaucoup plus petit, où on circule beaucoup plus facilement d'un milieu à un autre. À Paris, les experts ne parlent pas avec les gouvernants, sinon pour donner des informations, et ne parlent pas avec les médias. Enfin, ça c'est le syndrome parisien, c'est qu'il y a des petites communautés avec des malentendus, des incompréhensions qui datent de longtemps. À Hong Kong, tout ça est beaucoup plus fluide. Et aussi, à Hong Kong, vous pouvez passer très rapidement d'un laboratoire à une ferme, à un marché, du fait que les transports publics sont de très bonne qualité. Et puis surtout, Hong Kong, je l'ai dit, c'est l'Angleterre aux portes de la Chine. Donc, c'est plutôt la Suisse. Certains disent que c'est la Suisse, parce que c'est un petit pays comme ça, extrêmement protégé. Il y a pratiquement pas de classe ouvrière. Tout le monde fait son travail dans son coin, mais ils sont tous animés par la peur de la Chine. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. La Chine, dont ils sont pourtant dépendants économiquement. Donc c'est pour ça que je disais, la peur de la grippe, c'est aussi une peur de la Chine. C'est-à-dire, mon hypothèse, pour le dire brutalement, c'est que Hong Kong a réussi à nous transmettre depuis 1997, a réussi à transmettre au reste du monde sa peur de la Chine à travers la grippe. L'autre point sur Hong Kong, c'est qui fait que c'est un lieu intéressant pour étudier la grippe, c'est que c'est le territoire du monde le plus libéral. Il y avait une statistique qui montrait que c'est le lieu du monde où l'État intervient le moins. Toutes les activités... c'est pour ça que les Chinois ont besoin de Hong Kong, parce que c'est là où les Anglais viennent pour faire du business, pour acheter des... C'est de là que partent tous les containers sur des gigantesques cargos. Il y a du business et l'État ne contrôle pas ce business. Il n'y a pas de taxes... Ce qui fait que le contrôle de la grippe devient intéressant, parce que c'est un des seuls domaines où la police, par exemple, n'intervient pas. Vous pouvez exprimer n'importe quelle opinion. La secte Falun Gong, par exemple, qui est réprimée en Chine, a pignon sur rue à Hong Kong. Le seul domaine où l'État intervient, c'est sur la grippe, disons, sur les maladies contagieuses. Et donc, ça m'a amené à une autre hypothèse, c'est que la grippe, c'est pas seulement la peur de la Chine, c'est une maladie des sociétés néolibérales. C'est-à-dire, c'est une maladie de ces sociétés hypermobiles qui ont besoin de la mobilité comme moteur de l'économie. Et ce qui était très frappant dans les récits sur le SRAS, hein, qui était donc le moment où Hong Kong et le reste du monde se sont mis à croire, à prendre au sérieux le scénario catastrophe, que le H5N1 allait partir de Hong Kong pour aller vers le reste du monde. Le récit qu'on en faisait, c'était de dire à cause du SRAS, l'économie à Hong Kong aurait pu s'arrêter. Enfin, ça s'est arrêté, mais elle aurait pu s'effondrer. C'est-à-dire, si vous avez une économie comme Hong Kong qui n'est faite que de services, que d'échanges, et si cette activité s'arrête pendant 6 mois, le territoire s'effondre. Vous pouvez rayer de la carte ce qui est un vieux fantasme de Hong Kong aussi depuis 97, qui est l'idée Pékin veut nous supprimer. Bon, avec certains, même des thèses un peu paranoïaques du style le H5N1, c'est une invention de Pékin pour nous supprimer. Ils ont remplacé la bourse de Hong Kong par la bourse de Shanghai. Et puis, donc, c'est pour ça que Hong Kong, ce qui est très important pour eux, c'est d'être, je vais y revenir dans ma conclusion, c'est d'être la sentinelle, la vigie pour le reste du monde, pour alerter le reste du monde sur ces virus de grippe très dangereux. Mais bon, au-delà de la peur de la Chine, je pense qu'il y a vraiment cette idée que La Chine, c'est celle qui produit, mais Hong Kong, c'est celle qui échange. Et donc, comment on fait quand la société qui échange s'arrête? Alors, au-delà de ces problèmes, donc un peu de délimitation de terrain, puis de la situation un peu géopolitique de Hong Kong, il y avait un autre intérêt dans la comparaison entre Paris et Hong Kong, c'est qu'il y avait des phénomènes qui apparaissaient à Hong Kong que je ne voyais pas à Paris. Bon, j'ai parlé un peu des marchés au poulet vivant, qui était quand même un phénomène typiquement chinois. Mais bon, finalement, on pourrait dire ce qui s'est passé avec le risque de consommer de la volaille pour les consommateurs hongkongais, c'est un peu la même chose que l'espèce de panique qu'on a eue en 96 avec la crise de la vache folle, où l'animal qu'on préférait manger se révélait dangereux. Et donc, il y avait une espèce de court-circuit comme ça entre ce qu'on avait dans notre assiette et puis toute la chaîne de traçabilité où on se disait il se passe des choses pas très propres là dans les industries qui fabriquent nos steaks. Donc ça, c'est pas en soi, c'est pas très intéressant de dire voilà, y a la façon dont les consommateurs, enfin les gens ordinaires perçoivent cette gigantesque mobilisation sur les maladies animales, c'est se dire dans mon assiette là ou sur mon marché, il y a un truc qui va pas. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est de se dire comment est-ce que donc si l'hypothèse c'est de dire que la grippe c'est une maladie animale, que ça révèle des rapports des humains aux animaux, comment est-ce que la façon dont chaque culture, et là bien sûr la notion fait partie du vocabulaire d'anthropologie, il faut la problématiser, mais comment chaque culture perçoit les relations entre hommes et animaux, ça va influer sur le traitement de ces maladies animales. Alors on voit que dans les deux cas, Paris et Hong Kong, il y a eu des abattages massifs. Ça, c'est peut-être dans votre mémoire aussi, vous vous rappelez, les abattages massifs de bovins en 96-97, abattages massifs de volailles, on n'en a pas eu beaucoup, mais c'est quand il y a eu ce cas dans la Dombe, en 2006, on a abattu toute la ferme. Et il y a eu exactement les mêmes phénomènes. À Hong Kong, en 97, on a abattu 1,5 million de volailles, c'est-à-dire on a abattu toutes les volailles vivantes sur le territoire. Et ce geste était répété régulièrement. Tous les deux ans à peu près, quand il y avait un nouveau virus de H1N1 sur des volailles, on abattait toutes les volailles vivantes sur le territoire, sachant que la plupart des volailles vivantes viennent de Chine. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de voir que justement le nombre de volailles vivantes diminue, donc on passe de 1,5 million à 1 million. Alors, quand j'y étais justement, c'était 90 000, et là il y a encore eu un abattage au mois de décembre, et ils sont à 13 000. Donc ça devient plus raisonnable, mais ça signifie en même temps que le nombre de volailles vivantes diminue. Et ça a quand même toujours un aspect un peu massif. Alors ce qui est très frappant, c'est que, au-delà de dire que nous on aime la vache et eux ils aiment les volailles, c'est vrai, les Chinois ne mangent pas de... Enfin, jusqu'à 1911, il était interdit de manger de la vache en Chine. On y reviendra si vous voulez. C'est presque l'oiseau est presque leur animal totémique et nous ce serait presque la vache. Mais bon, au-delà de ce constat, enfin de cette idée un peu générale, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces abattages massifs étaient invisibles en France, alors qu'ils étaient fortement médiatisés en Chine. Invisibles parce que au début vous avez vu quelques images de ces charniers de bovins, puis il y a eu toutes sortes de débats sur ça nous rappelle la Shoah, Auschwitz, c'est affreux, vous avez des philosophes qui interviennent pour dire les droits des animaux, faut y penser quand même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même, c'est que devant les réactions paniquées du public, le gouvernement français a interdit aux médias de couvrir, il était même interdit de survoler en hélicoptère les charniers de bovins. Ce qui est assez bizarre, parce qu'on tuait les vaches pour rassurer les consommateurs, puis ensuite, quand les consommateurs voyaient les vaches tuées pour être rassurés, ils disaient, mais c'est pas possible, on est là, pour le coup, dans des trucs de schizophrénie. Alors qu'à Hong Kong, on tuait les poulets pour rassurer les gens, et on en était très fiers. On en était très fiers, donc il y avait, moi j'ai pu filmer, l'abattage de, alors c'est pas propre, donc ils étaient tués au gaz, ils étaient mis dans une poubelle en plastique. On mettait du gaz dans la poubelle, et puis au bout de 5 minutes, même pas 5 minutes, 30 secondes, on ouvrait la poubelle, il y en avait quelques-uns qui s'échappaient, donc ceux-là on les abattait à coups sur la tête, et puis ensuite on les mettait dans des poubelles et ils étaient enterrés à la chaux. Dans le Vietnam, ils étaient carrément brûlés, c'était encore pire. Mais ce qui était très frappant pour moi, c'était de voir qu'ils étaient, très fiers de faire ça. Il y a une phrase en Chine qui dit « tuer le coq pour effrayer le singe ». C'est un peu ça, c'est pour dire aux citoyens de Hong Kong, on vous protège, on est prêt à tuer des volailles. Or, le paradoxe, c'est que donc on n'ose pas montrer des abattages de bovins en France, alors que toute notre culture, finalement, chrétienne, disons judéo-chrétienne, établit une forte coupure entre l'homme et l'animal, donc on devrait être fier, en fait, de tuer des animaux. Alors qu'en Chine, où, au contraire, il y a une beaucoup plus grande continuité entre les hommes et les animaux, on est plutôt fier de tuer les animaux pour protéger les humains. C'est ce genre de paradoxe qui m'a intéressé. Alors après, on peut raffiner, j'ai essayé de le faire dans le livre, hein, la culture chinoise n'est pas monolithique, vous avez en gros trois traditions. Vous avez le confucianisme, qui lui fait le plus fortement la coupure entre les hommes et les animaux. Il ne dit pas, comme le christianisme, que Dieu a créé les animaux pour les hommes. Il dit simplement que l'homme a une mission particulière parmi les animaux, du fait qu'il a ce qu'on appelle la vertu, et qu'il doit donc cultiver sa propre vertu pour introduire de l'ordre dans le reste du monde. Et c'est pour ça que le rituel du sacrifice a un rôle central dans la culture confucéenne. Hein, c'est le moment où l'empereur remet de l'ordre, justement quand il y a des troubles dans le mandat céleste. Hein. Donc c'est pour ça que quand Margaret Chan, qui était donc directrice de la santé en 1997, fait abattre toutes les volailles, il y a un peu quelque chose de l'ordre du sacrifice confucianiste. Hein. On remet de l'ordre dans un moment de trouble. Mais c'est pas un sacrifice justement judéo-chrétien. Le propre du sacrifice judéo-chrétien, c'est que on cache. On peut tuer un humain et le remplacer par un animal, ou on peut faire semblant que Dupin soit un homme, etc. Mais il y a toujours un moment où on cache. Voilà un peu l'idée. Alors, au-delà de... Bon, donc il y a confucianisme, qui n'est pas la même chose que le christianisme, mais qui ont tous les deux du sacrifice. Vous avez le taoïsme, qui lui n'a pas de sacrifice, qui est justement une culture populaire où, au contraire, on va plutôt développer un culte de la nature, de la spontanéité de la nature. On va faire des cérémonies où on remet de l'harmonie dans la nature. On va décharger les arbres de leur poids. On va faire des repas végétariens. Et puis la troisième tradition, c'est la tradition bouddhiste, où là, vous avez l'idée qui vient d'Inde. Tous les vivants souffrent, et donc il y a une communauté entre les hommes et les animaux, c'est qu'ils souffrent tous, et que donc l'homme doit essayer de diminuer la souffrance des animaux. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir justement comment, dans ce contexte chinois, peut s'exprimer ce que j'appellerais une sensibilité animaliste. Une des thèses qui m'intéresse, c'est de voir que ces maladies animales, ces abattages massifs, ont beaucoup contribué depuis une vingtaine d'années à développer donc des réflexions, enfin à susciter des réflexions sur les droits des animaux, la souffrance des animaux, voire la subjectivité des animaux, et que en général ces débats sont un peu confus, disons. D'abord parce qu'ils sont extrêmement émotionnels. Qu'est-ce que c'est que s'identifier à un animal comme ça qu'on voit à la télévision? Enfin, on projette sur les vaches qu'on a abattues la vache qu'on voit dans son jardin. Et puis, souvent, c'est des ressucés de traditions judéo-chrétiennes mal digérées. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment le même problème peut être posé dans une tradition différente de la nôtre. Et pour poser ce problème, j'ai trouvé une pratique qui m'a beaucoup intéressé, qui est la pratique du laisser-vivre. Donc, c'est une pratique à la fois chez les taoïstes et les bouddhistes, qui consiste à prendre des animaux domestiques, disons, ce qu'on appelle des animaux domestiques, et à les remettre à l'état sauvage. Donc j'ai beaucoup suivi des groupes bouddhistes qui allaient sur les marchés et qui achetaient... Alors, en Chine, ils achètent des oiseaux et ils relâchent les oiseaux. Et à Hong Kong, ils ne peuvent plus le faire parce qu'on s'est rendu compte que les oiseaux qu'ils relâchaient, certains portaient le virus H5N1. Donc on s'est dit, c'est quand même très dangereux, surtout qu'en fait ce qu'ils prenaient, c'était des tout petits oiseaux, souvent des moineaux, qu'on était allé chercher en Chine, qui avaient passé la frontière compressés dans des petites cages, et qui, dans un état de stress pas possible, attrapaient toutes les maladies possibles, y compris le H5N1. Bon, il y avait même des critiques comme quoi finalement les bouddhistes organisaient une espèce de vaste cycle de commerce où ils achetaient des oiseaux en Chine, ils les relâchaient à Hong Kong, ils les récupéraient un peu plus loin, ils les vendaient, parce que tout ça implique aussi de l'argent. Bon, mais ce qui est assez joli dans cette pratique traditionnelle, hein, c'est que il y a l'idée que au moment où l'oiseau, donc enfin l'animal, donc voilà, ça a été interdit à Hong Kong, et donc à Hong Kong maintenant on relâche des poissons, des crabes, des tortues, des grenouilles, même des coquillages. Donc l'idée, c'est que l'animal que vous achetez sur le marché et que vous relâchez, hein, au moment où vous le relâchez, il va, alors on peut le dire de plein de façons merveilleuses, il y a un mot en chinois qui est, il va avoir une vertu, hein, c'est le même mot que la vertu de Confucius, sauf que c'est, il va exprimer une vertu, on pourrait dire une puissance d'agir, tout ce que vous voulez, une grâce, il va augmenter la vertu du monde, voilà. Et donc les gens que je suivais me disaient, ah c'est formidable, regarde, il y a plein de vertus autour de nous. Et donc, alors après la cérémonie, on a lâché les animaux, on fait des prières. Alors on fait des prières pour les hommes qui sont malades, puis on fait des prières pour les animaux qui souffrent aussi. Et puis ensuite, on va faire un repas végétarien. Voilà, c'était une partie très très sympathique du terrain par rapport à tous les experts stressés, les fermiers qui posaient des tas de problèmes, de risques, etc. Là, c'était des gens qui étaient un peu illuminés, mais pour lesquels le vrai problème, c'était pas la grippe aviaire. Le vrai problème, c'était il y a de la souffrance sur les marchés et il faut soulager la souffrance du monde, quoi. Bon, donc ce qui était assez amusant, c'était de suivre, en suivant ce groupe, c'était de penser à toutes les controverses que ça suscite, puisque je l'ai dit, si ces pratiques augmentent le risque de H5N1, vous avez une sorte de contradiction là, ou de paradoxe. C'est-à-dire que les bouddhistes pensent qu'ils vont augmenter la vertu dans le monde, ils ont une espèce de métaphysique comme ça, où vous avez des cycles d'âme. Vous voyez, moi à un moment j'avais relâché un crabe qui m'a pincé, ils m'ont dit, ah bah dans une autre vie, t'as dû être un crabe, et puis t'as fait quelque chose de pas bien à ce crabe-là, enfin bon, une espèce de truc comme ça, qui est quand même pour nous un peu bizarre. Et donc comment est-ce que cette conception métaphysique de cycle des âmes, j'augmente la vertu en relâchant, etc., comment est-ce que ça peut coexister avec la vision de mes experts, où vous avez des écosystèmes, et puis vous avez des virus qui passent d'un écosystème à un autre, puis quand ils passent trop vite d'un écosystème à un autre, bah ça produit des catastrophes. Alors bon, le lâcher d'oiseaux est vraiment comme ça, la pratique sur laquelle vous avez des discussions entre des bouddhistes. Ils ont organisé des conférences, voilà, ça c'est Hong Kong, quand ils ont un problème, ils organisent une conférence. Vous avez des bouddhistes, des experts, des gens du gouvernement, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, solution qu'ils ont trouvée, c'est de dire, on interdit le lâcher d'oiseaux et puis on autorise le lâcher de poissons. Alors les ornithologues aussi ont dit quelque chose de pas mal. Ils ont dit, bon, c'est vrai que c'est dommage de plus faire le lâcher d'oiseaux parce que c'est beau, lâcher d'oiseaux, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans notre réserve d'oiseaux, là, puisqu'il y a beaucoup de réserves d'oiseaux, ça a été créé par les Anglais, ils adorent ça, c'est les bird watchers. Dans notre réserve d'oiseaux, on va aussi lâcher des oiseaux, hein, mais c'est des oiseaux qu'on a pris sur la frontière là, qui sont commercialisés de façon illégale, et donc on va les soigner, on va vérifier qu'ils sont pas malades, et puis on va les relâcher dans le bon environnement pour être sûr qu'une fois qu'ils sont relâchés, ils vont pas mourir. Et puis éventuellement, on va mettre un GPS sur leur dos, comme ça, on va s'assurer que au bout de quelques semaines, ils sont toujours là, et puis on va pouvoir suivre s'ils ont migré, tout ça. Et puis on va pouvoir avoir des données. Bon, donc il y a un moment, où on se dit, mais d'accord, c'est bien gentil de relâcher des oiseaux, mais est-ce que vous les relâchez vraiment? Qu'est-ce que c'est? Donc il y a toute cette question de la surveillance. Qu'est-ce que c'est que la surveillance des animaux dans une société où vous avez des bouddhistes qui se disent les animaux portent la souffrance du monde, et puis vous avez des experts qui disent les animaux portent les virus qui vont nous tuer. Alors je voulais finir là-dessus parce que le concept central à la fois dans le livre et puis dans les recherches que je vais faire maintenant, c'est le concept de sentinelle. Alors j'en ai un petit peu parlé parce que ce que j'ai découvert qui me semblait vraiment intéressant, c'était de dire que Hong Kong, la fonction de Hong Kong dans l'économie du monde maintenant, c'est la sentinelle. C'est la sentinelle, ça veut dire qu'il nous alerte sur toutes les saletés qui nous arrivent par le continent chinois dont nous sommes tous globalement de plus en plus dépendants. Je vous rappelle la crise de la mélamine, le lait contaminé, c'est Hong Kong qui a lancé l'alerte. Bon, le H5N1, beaucoup de choses, y compris d'ailleurs les problèmes du SIDA, de conditions de travail en Chine. Hong Kong lance l'alerte. Voilà, Hong Kong lance l'alerte sur ce qui se passe en Chine. Maintenant, il y a un autre usage du concept de sentinelle, qui est de dire c'est les animaux qui sont sentinelles. Les animaux sont, par exemple, dans une ferme, vous avez des oiseaux qui ne sont pas vaccinés, pour que quand le virus arrive, ça va être les premiers à mourir. Et il y a le terme chinois pour dire ça, c'est Shaobingji, c'est les oiseaux soldats siffleurs. Donc, oiseaux soldats siffleurs, on retrouve cette idée que c'est une lutte, la grippe aviaire est une guerre, c'est la guerre contre le microbe, mais dans cette guerre, les oiseaux sont nos alliés, hein, puisqu'ils lancent l'alerte. Ils lancent l'alerte en mourant le plus souvent. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est que ce monde où il y a des donc il y a des territoires qui sont sentinelles, il y a des oiseaux qui peuvent être sentinelles. Si on suit même le discours des biologistes, il y a des cellules en nous qui sont sentinelles, les cellules, notamment ce qu'on appelle les cellules dendritiques du système immunitaire, dernier prix Nobel d'immunologie apporté là-dessus. Bref, qu'est-ce que c'est que cette vision? Alors, du monde, c'est-à-dire du monde micro, macro, les animaux, les territoires, où certains sont sentinelles pour les autres, c'est-à-dire envoient des signes de catastrophe à venir. Et voilà, dans les travaux que je vais faire, puisque je compte revenir en Chine, je voudrais voir comment les oiseaux sont pris comme sentinelles, pas seulement pour cette histoire de pandémie de grippe, mais aussi pour d'autres choses. Alors là, des alertes à plus long terme, comme le réchauffement climatique. Si on observe les changements des trajectoires migratrices des oiseaux, on voit que le réchauffement climatique y a une grande part, notamment parce qu'ils trouvent des réserves de nourriture ailleurs que là où ils avaient l'habitude. Et puis, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir comment ils lancent des alertes sur les radiations nucléaires, après la catastrophe de Fukushima notamment. Il serait intéressant de voir comment les comportements des oiseaux, est-ce qu'ils vont dans cette zone-là, puisque les oiseaux vont du Japon à l'Australie quand ils passent à Hong Kong. Okay. Est-ce que leur corps est altéré? Est-ce qu'ils ont développé des mécanismes de résistance aux radiations? Voilà le type de questions qui m'intéresse bien au-delà de la grippe, mais je veux bien qu'on revienne sur la grippe.